savez, le... On a eu un très bon temps, merci pour la louange au fait ce matin, c'était super. Et gloire à Dieu parce que les cultes se suivent et ne se ressemblent pas parce que le Saint-Esprit veut faire une œuvre. Ta journée d'aujourd'hui n'est pas ta journée d'hier, tes besoins d'aujourd'hui ou tes besoins de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit connaît toutes choses, Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il est tellement celui qui veut pourvoir que si on accepte de le suivre et de faire les choses comme il veut que nous les fassions, alors les besoins seront pourvus. Et pour le coup, on pourra vraiment rendre gloire à Dieu. Vous savez, les Juifs bénissent leur repas avant, mais ils remercient le Seigneur pour le repas après. Je trouve qu'il y a une telle logique juive là-dedans. Tu bénis le repas avant parce que tu as une assiette devant toi et que tu veux qu'il soit sanctifié, mais une fois que tu viens de manger ton entrecôte, là tu as une raison de remercier le Seigneur. Et c'est exactement comme cela avec Dieu. Par la foi, on le remercie avant. Parce que la parole nous promet certaines choses, mais quand on les voit se manifester dans notre vie, la Bible dit qu'on saute comme des veaux qui vont à l'engrais. Pas à l'engrais des pesticides, des veaux qui vont à la mangeoire parce que c'est là qu'ils vont pouvoir se gaver. Et ils sont tellement contents qu'ils sautent, ils sautent. Et c'est exactement ce que veut le Seigneur pour nous. Avant de commencer mon message, il y a ce verset qui m'est venu dans Jean 1. Il nous est dit que, au commencement, la parole était avec Dieu, on sait que c'est de Jésus dont il s'agit. Au commencement, la parole était déjà. Elle est Dieu et la Bible nous dit qu'en elle se trouve la vie. En Jésus se trouve la vie sous toutes ses formes. Et je veux vraiment t'encourager, si tu expérimentes une forme ou une autre de mort dans ta vie actuellement, alors il y a des morts qui sont violentes, qui sont brutales, qui sont telles que celles qu'on a pu voir, mais il y a d'autres formes de mort. Une perte d'emploi, c'est une forme de mort. Un manque, c'est une forme de mort. La mort n'est pas qu'un, comment dirais-je, n'est pas qu'un événement. La mort, ça peut également être les conséquences de tout ce qui n'est pas Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Adam au départ. Il a été séparé de Dieu. Et là, les manifestations de la mort ont commencé à se produire et à être provoquées. Donc, si dans ta vie, tu sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui manque, c'est une manifestation de la mort. Si la Bible te promet quelque chose, souviens-toi, en Jésus se trouve la vie. Tu as besoin de laisser Jésus rentrer dans ta vie. Ce matin, je voudrais qu'on parle d'un sujet particulier, et je l'ai eu à cœur, ça m'a vraiment encouragé. À la une du point de cette semaine, il y a le père Hamel. Et il nous est dit, de sa part, le monde a tellement besoin d'espérance. Et ce matin, on va parler de l'espérance. L'espérance, j'ai regardé une définition, on peut commencer, vous savez, quand vous voulez préparer un message, le Larousse, c'est un excellent moyen de mettre le pied à l'étrier. Et en ce qui concerne le verbe espérer, il nous est dit que c'est considéré comme capable de se réaliser un événement, un acte qui est désiré, qui est attendu. On compte sur quelque chose. Escompter, attendre quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose, tabler sur quelque chose ou sur quelqu'un pour accomplir un souhait. Espérer, d'après le vocabulaire courant, je dirais, c'est je souhaite que. Je compte sur quelque chose. J'aimerais que. Et l'espoir, c'est le mot qui est dérivé de ce verbe-là. C'est le fait de. C'est ce sentiment que l'on ressent lorsque l'on aimerait que, lorsque l'on souhaiterait que. Mais j'ai remarqué que dans les Écritures, il n'était pas question d'espoir. Il est question d'espérance. Alors je cherchais la différence pour savoir s'il y en avait une, entre l'espérance et l'espoir. Et il y a une différence. Il nous a dit en ce qui concerne l'espérance, toujours dans le Larousse, que c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance, 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 la réalisation de ce que l'on désire. Il donne comme synonyme l'espoir. Mais en dessous, il y a une seconde définition. Et c'est une définition propre au christianisme. C'est très intéressant de voir que dans le Larousse, il y a la définition d'un mot qu'on entend presque tous les jours comme espérance. Et on vous dit, espérance, c'est quelque chose de particulièrement chrétien. C'est un mot biblique. C'est une vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme, afin d'obtenir la grâce divine et l'éternelle union avec Dieu. Il est précisé, l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Alors, je regardais un petit peu en grec, puisque j'ai compris que le mot espérance dans les Écritures, on ne pouvait pas l'échanger avec espoir. Ah, j'espère que... Non, là, c'est pas « j'espère qu'il viendra à mon anniversaire »,« j'espère qu'il fera beau demain pour mon pique-nique », c'est pas ça. L'espérance, c'est « je suis certain de ce que Dieu m'a promis ». Et c'est mieux que ça. « Ma foi se trouve, il nous est dit, en Jésus-Christ ». Dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ton espérance, ça n'est pas simplement un événement que tu souhaiterais. C'est ce qui te relie, c'est ce en quoi tu crois dans Jésus. Tu comprends la différence ? On va voir un petit peu plus loin ensemble. Mais en grec, le mot espérance, c'est elpis, E-L-P-I-S, elpiso sous sa forme verbiale. C'est très intéressant. Il apparaît 79 fois sous l'une de ces deux formes dans le Nouveau Testament. 79 fois. Dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, c'est plus compliqué, parce que les Juifs ont toujours 7 ou 8 ou 15 mots différents pour un seul concept. Mais là, en grec, en ce qui concerne le Nouveau Testament, 79 fois. Il faut savoir que sur ces 79 fois, il y en a 59 qui ont à voir avec la résurrection des morts, la venue du Messie et la gloire qui nous attend. Ça représente, j'ai fait un calcul, 75%. Dans 75% des cas où il est question d'espérance dans le Nouveau Testament, ça nous parle de ce qui nous attend dans le futur. La venue du Messie, celle que les Juifs attendent, la résurrection des morts, et je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. C'est un point fondamental de la foi chrétienne, la résurrection des morts et la gloire qui nous attend. Alors on va parler un peu de tout ça ce matin. Regardez avec moi dans Romains chapitre 15, au verset 13. Pour vous donner le contexte, cette épître aux Romains, cette lettre aux Romains, a été écrite par Paul qui, à cette époque, n'avait jamais mis les pieds à Rome. Pas plus que Pierre, pas plus que Jean. La communauté de Rome a été fondée sans doute La communauté de Rome, on ne sait pas par qui elle a été fondée. Il se trouve, peut-être que c'était des juifs romains qui sont allés en Israël pour une fête, qui ont entendu parler de la foi en Christ et qui ont compris que Jésus était le Messie, qui sont retournés en diaspora à Rome et qui, à partir de ce moment-là, ont commencé à bâtir un groupe de maisons, on pourrait dire une communauté, sur cette foi-là. Et Paul s'adresse aux Romains en leur récapitulant un certain nombre de choses, puisqu'il ne sait pas par qui a été fondée cette communauté. Donc, il veut s'assurer que les fondamentaux sont à leur place. Et lorsqu'il dit dans Romains 15, 13, cette chose-là, il faut comprendre que nous sommes aux alentours de l'an 58 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peine 6 ans avant la grande persécution que Néron va provoquer contre les Romains. Et on a tous vu des films où il y a des gens brûlés vifs, ou dévoré vivant par des bêtes dans le Colisée ou des choses comme cela. Néron était quand même quelqu'un qui allumait des chrétiens vifs dans son jardin pour servir de flambeau, pour vous donner le genre de personnage. Ça, c'est en 64 après la grande persécution. Là, nous sommes en 58, à peine 6 ans avant, et Rick Renner a écrit un très très intéressant livre sur le sujet, un grand livre, un beau livre. Et il explique que c'était pas facile pour les chrétiens à cette époque-là. Parce que cette foi chrétienne, en particulier à Rome, qui était vraiment l'épicentre, je dirais, de ce qui allait se passer ensuite, cette foi chrétienne, elle dérangeait. Elle dérangeait parce que d'abord, nous étions dans une société polythéiste. Et que si tu n'adores pas les dieux, si tu n'adores pas l'empereur, puisque depuis quelques années, depuis quelques décennies, l'empereur était lui-même un dieu, on ne te persécutait pas, mais le fait de ne pas adorer les dieux était source de malédiction pour la ville, c'est ce que pensaient les gens. Donc, ces chrétiens qui n'adoraient plus qu'un seul dieu et pas le bon, pas les bons, étaient sans doute ceux qui étaient la cause des malheurs qui pouvaient s'abattre sur tout un chacun. Les Juifs eux-mêmes voyaient d'un assez mauvais œil l'essor du christianisme à l'époque parce qu'ils avaient réussi à se faire une place dans l'Empire romain et qu'ils ne voulaient pas que, parce que les gens étaient en train de pointer du doigt les chrétiens, on relie d'une façon ou d'une autre la foi chrétienne aux racines juives et qu'on dise « Ah mais les Juifs, vous êtes dans le même sac qu'eux !» Sans compter que prêcher la croix, Dieu venu en chair, mort pour nous, c'est un blasphème, c'est une folie pour les Juifs. Donc, on avait un peu cette double opposition contre nous. Mais ce n'était pas encore la grande persécution. Pour autant, au milieu de cela, nous sommes en 58, Paul écrit aux chrétiens de Rome « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, de foi, par la puissance du Saint-Esprit. » Et c'est le mot « elpis » dont il s'agit en grec ici. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que même dans cette situation-là, il est possible d'être rempli de joie, de paix. Ça s'obtient dans la foi. Ça vient de Dieu, qui est le Dieu de l'espérance. Ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Et le Dieu, qui est le Dieu de l'espérance, veut que nous donner tout cela pour que nous abondions en espérance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas censés être dévastés par les événements qui se passent autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer avec ceux qui pleurent, parce que c'est ce que nous incite à faire Paul, et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais malgré tout cela, on doit abonder, on peut abonder en espérance. Souvenons-nous toujours de l'époque à laquelle les épîtres ont été écrites. Parce qu'on trouve un encouragement par rapport à ce que l'on commence à voir dans notre civilisation aujourd'hui. On trouve un encouragement. Ensuite, dans Colossiens chapitre 1, je vous encourage, vous réécouterez ce message sans doute et vous prenez peut-être des notes, lisez tout le premier chapitre de Colossiens cette semaine. Tout le premier chapitre. Il est long, on n'aura pas le temps de le lire en entier, mais cette espérance, qu'est-ce que c'est? Cette certitude que nous pouvons avoir. Ce mot dont il est question à 75% en ce qui concerne la résurrection des morts, la venue du Messie, la gloire qui nous attend, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Il nous est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 25, en parlant de l'Église, et c'est Paul qui parle, « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. » Deux points. « Annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ces saints, qui sont les saints, nous tous, qui avons accepté Jésus dans notre vie. » Saint veut dire sanctifié, c'est-à-dire mis à part. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître, à qui? Aux saints, à nous, aux croyants, a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire, deux points, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, pas Christ au ciel et tu crois en lui et c'est une théologie ou une philosophie et tu espères que... Non, le mystère qui a été caché à tout le monde depuis la création du monde, mais qui a été révélé depuis la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'est le fait que Christ vient en toi, par le Saint-Esprit. Christ, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, il l'appelle parfois l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus vient en toi. Et ça, nous dit-on, nous dit Paul. Paul est quelqu'un, il faut bien comprendre une chose. Paul n'est pas quelqu'un qui a lu les Écritures, a eu la révélation de quelques versets et s'est mis à prêcher l'Évangile autour de lui. Non, Paul est quelqu'un qui, alors qu'il était à l'opposé du spectre en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le Seigneur, a été, j'allais dire littéralement, frappé par la grâce de Dieu. Je suis en train, c'est une pensée que j'ai eue, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que ce qui a fait tomber Paul de son cheval, c'est l'amour. Parce que Jésus ne peut pas se révéler à quelqu'un sans amour. Et plus je parle avec des juifs autour de moi, plus je me rends compte à quel point ils manquent cruellement de l'amour de Dieu pour eux. Ils ont la connaissance des Écritures, ils ont la connaissance de la loi, ils ont la connaissance des règles, mais ils passent complètement à côté de l'amour de Dieu pour eux. Ah, ils parlent d'un Dieu miséricordieux, ils parlent d'un Dieu qui est bon, mais ils ne le vivent pas dans leur cœur. Pour ceux à qui j'ai eu l'occasion de parler en tout cas. Et ce qui a frappé Paul, qui était le summum du schéma que je viens de dépeindre, c'est que Jésus s'est révélé à lui dans son amour. Le gars en est tombé à la renverse. Ce même Paul, ensuite, s'est isolé pour apprendre de Jésus directement. Et la Bible nous dit même qu'il est monté au ciel. Il ne savait plus s'il était dans son corps, hors de son corps. Il est monté et il a été enseigné directement. Il a vu des choses, il a entendu des choses qui, dit-il, sont ineffables. On ne sait même pas comment les exprimer. Comment tu veux expliquer à un Esquimau ce qu'est un arbre ? Et il essaye. Et ce même Paul nous dit... Je voudrais vous expliquer quelque chose par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je sais, par rapport aux Écritures. Ce mystère caché de tous les temps, aujourd'hui révélé, c'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelle gloire ? Celle qui nous attend. Dans la parole vivante, il est dit, ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Toute la gloire future. Je sais qu'on parle beaucoup dans le milieu charismatique, dans le milieu de la foi, de comment avoir tes besoins qui sont pourvus, comment avoir ta voiture, comment avoir ton appartement, comment avoir ton augmentation, comment être guéri. Et toutes ces choses sont bonnes et Dieu veut nous les donner. Mais ce jour, on va viser un peu plus haut. Aujourd'hui, on va viser un peu au-delà, beaucoup au-delà, de toutes ces choses qui ne sont que passagères. Et on va se concentrer sur la gloire qui nous attend. C'est-à-dire ce pourquoi Dieu a donné son Fils. Amen ? Ok ? Jésus-Christ ne va pas accomplir quelque chose en quoi on peut espérer. Non, Jésus-Christ est notre espérance. En lui se concentre toute la gloire future. Vous savez, j'ai entendu Terry Copeland dire une fois, et ça m'a marqué, elle a dit « Quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas simplement l'exaucement à tes prières. » Il se donne lui-même à toi, parce qu'il est ce dont tu as besoin. Tu es malade, il est la guérison. Ce n'est pas simplement que Dieu t'envoie la guérison, non, c'est que Dieu envoie un fragment de lui-même se manifester en toi, puisqu'il est la guérison. On a vu dans Jean 1 tout à l'heure, il est la vie. Tu comprends comment ça fonctionne ? Maintenant, tu comprends en quoi le fait que Jésus, par le Saint-Esprit, soit en toi, et quelque chose de mind-blowing, comme disent les Anglais. Ça fait entrer le ravioli en ébullition. C'est que tu as déjà en toi, si tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi. Tu n'auras rien de plus quand tu iras au ciel que cela. Du point de vue spirituel, il y a d'autres choses dont on va parler. Mais il est tout ce dont nous avons besoin. Alors cette gloire dont il est question, qu'est-ce que c'est ? En grec, c'est le mot « doxa ». Il y a plusieurs mots pour décrire la gloire en grec, mais celui dont il est question dans ce verset, c'est doxa. Doxa, c'est la splendeur, l'éclat. Alors, c'est utilisé pour décrire la splendeur ou l'éclat de la lune, du soleil, des étoiles. Vous avez déjà regardé le soleil en face ? C'est... Rien que ce spot, déjà, il m'éblouit. Non, pas tant que ça. Mais le soleil, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la grâce... La majesté, c'est quoi tout ça ? Doxa, c'est quoi doxa ? La gloire, c'est quoi la gloire ? C'est ce en quoi nous devons espérer. C'est ce qui nous attend. C'est ce pourquoi Christ nous a rachetés. Christ ne t'a pas racheté pour qu'en quittant ce corps, tu voles sur un nuage, et puis tu ailles ensuite, même si c'est très agréable, au ciel, dans sa présence, tu t'assois à ses pieds pour l'éternité, et puis tu restes là. Pendant ce temps, les choses continuent sur Terre, et puis, bon, ben voilà, c'est pour l'éternité comme ça. Et de temps en temps, tu, comme dit souvent le pasteur, tu sirotes un coca dans un hamac, et puis ça s'arrête là. Non, 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 c'est pas ça. La gloire qui nous attend, et je vais vous donner quelques exemples, c'est infiniment au-delà de cela. Si tu arrives à te concentrer et à comprendre ce qui nous attend de manière certaine. Souvenez-vous, l'espérance, c'est la certitude de la foi. C'est pas un souhait, c'est pas j'aimerais que, c'est certain. Alors tu vas avoir des raisons de te réjouir. Alors tu vas avoir des raisons de considérer les afflictions par lesquelles nous passons tous comme ramenées à leur juste proportion. Alors tu vas avoir des raisons de comprendre que nous sommes pour peu de temps sur cette planète. 80, 90, 100 ans, c'est peu de temps, ça passe vite. C'est tellement peu de temps que tout le monde te dit « Mais qu'est-ce que ça passe vite ? Je ne l'ai pas vu passer. » Mais ce qui nous attend après, alors ça, c'est glorieux. Il nous est dit la majesté. Il nous est dit également que, et c'est là que je veux m'arrêter, la gloire à laquelle nous sommes destinés, qui nous attend, qui est nôtre, qui va se manifester dans notre vie à un moment donné ou à un autre, qu'on soit ici ou que ça soit ensuite au moment de la résurrection, je vais en parler, c'est la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé qui puisse être. Je ne sais pas quelle est ta vision de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta vision de Dieu. Mais souvent, notre vie est à l'image de notre vision de Dieu. Et si on se rend compte que peut-être les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, ou que, vous savez, pasteur a dit la semaine dernière, c'est très juste, ou il y a 15 jours, tu es à l'image du Dieu que tu adores. Mais ça marche pour nous autres également. Si tu es tellement embourbé dans tes problèmes que tu en perds de vue la grandeur de Dieu, et, je répète, de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui est déjà en toi, ce à quoi il t'a déjà destiné, ce qui est déjà marqué dans ton futur, et tu ne pourras rien faire pour y échapper parce que c'est déjà lancé. Alors, tu vas te rendre compte que Dieu est créateur de planètes. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente. Créateur de planètes. Tu vas te rendre compte que Dieu, un mot de sa part, et l'univers pourrait s'effondrer. J'aime l'univers parce que c'est quelque chose qui me parle. Mon associé qui est juif, par exemple, lui, il voit Dieu dans le cours des événements humains. Type 1948, renaissance de l'État d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui le marque. Comment, après une catastrophe comme la Shoah, on peut avoir un État d'Israël qui renaît? Voilà, ça, c'est un truc. C'est dans l'histoire humaine. Il y a un verset qu'a dit Moïse. Il dit, mais Dieu se révélera soit dans la création, soit dans le cours des événements. Mais d'une façon ou d'une autre, il parle aux gens. Personnellement, la création est quelque chose qui me parle. C'est pour ça que je parle souvent de l'univers, des planètes, parce que c'est quelque chose qui est tellement énorme pour moi. Vous avez déjà monté très haut à la montagne, vous regardez autour de vous, ça coupe le souffle. Quand tu te rends compte, moi des fois j'ai le vertige. C'est-à-dire de voir que sur la montagne d'en face, à tel point c'est colossal. C'est vertigineux. Ou quand tu regardes la mer et que tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait autant d'eau à un seul endroit, enfin, c'est fou quoi, c'est fou. Ou le soleil, il suffirait qu'il monte le soleil d'un cran et on serait tous brûlés vifs à l'instant même. Ou qu'il le baisse d'un cran et c'est une période glaciaire qui s'ouvre sur la planète. Enfin, c'est hallucinant, Dieu est créateur de ces choses-là. Et il va faire quelque chose en nous qui est à la hauteur de ce dont je suis en train de parler. On continue. Alors, ce n'est pas la Shekinah, vous savez, la Shrina en hébreu, on utilise souvent ça pour la gloire de Dieu. Oh, ta gloire, ta Shekinah, Shekinah glory pour ceux qui connaissent. Sauf que ce n'est pas ça. Parce que Shekinah, ça veut dire la présence manifestée de Dieu. Donc, traduire ça par gloire, ce n'est pas la même chose dont on parle. Quand Dieu se manifeste, c'est lourd, il y a de la fumée, on connaît l'Ancien Testament, on voit des fois dans le Nouveau Testament, des choses qui se passent comme ça, mais non, là, je parle de la gloire qui nous attend, notre transformation. Alors notre salut, tu dis oui, mais ok, ça c'est pour plus tard, de quoi s'agit-il? Mais aujourd'hui, notre salut a un double aspect. Nous étions complètement séparés de Dieu, c'est ce que nous disent les Écritures. Nous étions morts, séparés, sans aucun lien avec lui, sans aucune espérance dans ce monde, nous n'avions rien. Et nous, non-juifs, encore moins que les autres. Eux, à la limite, ils avaient une alliance à laquelle se raccrocher en disant « si je fais tout parfaitement, si j'obéis à la loi, je vivrai, je serai déclaré juste. » Et on sait que c'est impossible. C'est voué à l'échec. Mais nous, alors nous c'est encore pire, on n'a même pas cette alliance-là avec Dieu. On n'avait même pas cette alliance-là avec Dieu. Et pourtant il a fait quelque chose, c'est qu'il a envoyé son Fils prendre notre forme et être, je pourrais dire, le prototype, ou l'archétype, je ne me souviens jamais la différence entre les deux, mais de ce qui nous attend. C'est-à-dire vivre sous forme humaine, mourir pour le péché, être enseveli, être ressuscité et être ressuscité dans un corps glorieux, de telle sorte que ceux qui l'ont vu après la résurrection ne l'ont pas reconnu immédiatement. Et je pense qu'il a dû baisser l'intensité de l'irradiation qui émanait de lui pour pouvoir être reconnu, sans quoi c'était le soleil en face des gens. C'est un peu l'image de ce qu'ils ont vu lors de la transfiguration. Si vous aimez la science-fiction, vous voyez complètement de quoi je veux parler, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre des images sur ça. C'est... Vous comprenez ce que je veux dire? Et il nous est dit, Romains 8, 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Mais on sait qu'à la nouvelle naissance, on a l'Esprit de Christ. Et ce n'est pas du baptême dans le Saint-Esprit dont il s'agit ici. C'est le simple fait que pour que tu naisses de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi et te ramène à la vie. Il ramène ton esprit mort à la vie. À ce moment-là, tu as l'Esprit de Christ en toi. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. À moins que le Seigneur ne revienne, on y passera tous. Notre corps, on le laissera tous derrière. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son Esprit qui habite en toi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables envers la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est important. Quand j'ai étudié la question de l'espérance, 75% des versets me projetaient dans le futur, au moment de la venue glorieuse de Jésus comme le Messie, au moment de la résurrection, ma résurrection, au moment de ma glorification. Et on va voir ensemble ce que c'est, rapidement. Ma question était, mais et maintenant? Donc, tout ça, c'est pour plus tard. Donc, maintenant, qu'est-ce que ma nouvelle naissance? Si tout est plus tard, si toute cette gloire en laquelle je suis censé espérer, c'est pour plus tard, ok, alors, qu'en est-il de tout ce qu'on m'apprend sur la foi, sur le fait que je peux avoir maintenant la guérison, sur le fait que je peux avoir maintenant la bénédiction, sur le fait que maintenant, je suis une nouvelle créature et je ne suis donc plus obligé de vivre comme le reste du monde? Il faut se poser des questions. Il y a un double aspect à notre salut. Il est déjà, et ta glorification est déjà sur les rails. L'espérance que tu as dans cet événement ne te trompera pas parce qu'elle est certaine. Néanmoins, tu es déjà fils ou fille de Dieu. Tu es déjà, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà venu en toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le fait que l'Esprit de Dieu soit déjà venu en toi, c'est précisément cette vie que tu as à l'intérieur de toi qui va se manifester au moment de ta glorification. C'est ce qui va ramener nos corps mortels à la vie, glorifiés, on va le voir, le moment venu. C'est cette vie que tu as dans ton esprit qui t'amène dans la présence de Dieu à partir du moment où tu quittes cette terre. Mais on ne va pas rester indéfiniment dans la Jérusalem céleste, mes amis. Parce que le corps glorifié que nous allons avoir va nous permettre de faire bien au-delà que rester simplement aux pieds du Seigneur pour le restant de nos jours. Il faut qu'on pense plus grand. Il faut qu'on accepte de lire les Écritures telles qu'elles nous dépeignent notre futur. Notre futur, j'ai presque envie de dire, pour revenir à cette métaphore-là, il est cosmique. Il va au-delà de la planète cieux, de la planète Jérusalem céleste. Je vous encourage à lire, tu peux me passer le grand dessin s'il te plaît, il est sur l'étagère de gauche. Je vous encourage à lire ce livre, c'est un petit livre de Mac Hammond. Et il est notamment, merci, il parle notamment de ces choses-là. Sommairement, hein, parce qu'il fait, il fait 84 pages, donc il ne peut pas approfondir tous les sujets. Mais lisez ce livre si vous ne l'avez pas lu, il est excellent pour vous dépeindre la grande image de ce qui nous attend. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Tout ça est au passé, c'est ce que nous avons déjà reçu. C'est la partie actuelle de ton salut. J'ai presque envie de dire passé. Un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, il parle d'autre chose. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Dans votre Bible, vous avez peut-être « Nous sommes aussi co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui. » N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a dans la plupart. « Afin d'être glorifiés avec lui. » Il faut se souvenir que la ponctuation est quelque chose qui a été rajouté par le traducteur en fonction de ses a priori. J'ai décidé, parce que ça a tout autant de sens, en réalité ça en a plus, de mettre le point une phrase avant. Nous sommes co-héritiers de Christ. Point. Si toutefois nous souffrons aussi avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parce que sinon on a le sentiment que pour être co-héritier avec Christ, il faut qu'on souffre. Or, la Bible nous dit qu'il a déjà pris toutes les souffrances. Il peut arriver que je souffre pour obéir à la volonté de Dieu, ou que je souffre par la faute de quelqu'un d'autre, ou que je souffre à cause de mes bêtises, ou que je souffre par une attaque du diable, mais ce n'est pas une obligation pour être co-héritier de Christ. Ce qu'il a fait est largement suffisant. Si toutefois je souffre avec lui afin d'être glorifié avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est de cela qu'on parle. L'espérance que nous pouvons avoir, c'est de cela dont il est question. C'est notre révélation en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que ton employeur ne te voit pas comme une fille de Dieu. Tes voisins, tes amis, ta famille, les gens que tu croises dans la rue. Mais quand tu vas subir, j'allais dire, la révélation que Dieu a prévue pour toi, ta transformation physique en véritable fils ou fille de Dieu, alors tu seras comme Jésus après la résurrection, tu seras comme Jésus au moment de la transfiguration. Il nous est dit que la terre elle-même, plus la création, l'univers entier, attend avec impatience cette révélation, comme une femme enceinte attend l'accouchement. Il nous est dit, nous savons que la création, verset 20, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Adam. Avec l'espérance, la création tout entière a l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la création tout entière bénéficiera de cette révélation qui sera la nôtre, de cette résurrection, de cette glorification de notre corps, du fait que nous ne serons plus soumis à des limites physiques, du fait que nous ne serons plus soumis à des limites temporelles, du fait que nous ne serons plus soumis aux paramètres, aux 5, aux 4 dimensions, aux 3 dimensions, 4 avec le temps, qui régissent ce monde physique. On n'est plus soumis à ça. Jésus n'est pas soumis à ça. Il n'a plus été soumis à ça à partir de sa résurrection. Vous vous souvenez ce qu'il a dit quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs sur le chemin? Il a dit, dès qu'ils ont eu la révélation, il a disparu de leur... Hop. Philippe, l'évangéliste, ça a été la même chose. Une fois qu'il a... C'est avant ou après? C'est après qu'il ait parlé à l'eunuque. À un moment donné, Enoch, dans l'Ancien Testament, Dieu l'a enlevé. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Élie, enlevé. Jésus, après son ascension... Au moment de son ascension, enlevé, plus soumis à des limites physiques. Il nous a dit dans le Nouveau Testament, quand après la résurrection, Jésus s'est présenté à eux, il a traversé le mur. La paix soit avec vous, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Non mais imaginez le truc quoi. Vous êtes ce soir chez vous en train de regarder la télé, d'un coup vous voyez votre mur qui commence à onduler, il y a un truc qui... Il faut imaginer. On n'est plus soumis aux limites physiques. Et il n'y a pas que le déplacement façon Star Trek, il y a toutes sortes de choses qui nous attendent. Bon, je continue. La révélation des fils de Dieu va avoir un effet bénéfique sur la planète elle-même, sur la création elle-même. Elle attend, elle soupire après ces choses-là. Ok. Pour avoir part à cette liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, « Or nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. » On le voit. On voit des catastrophes naturelles, on voit des tsunamis, on voit des choses qui, la planète qui souffre, dit « Ah, c'est à cause de l'écologie ». Non, c'est pas à cause de l'écologie. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être, allez, un millième pour sur... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Elle attend cette révélation. Et plus on se rapproche de cette révélation, c'est comme dans un accouchement, hein. Plus le bébé est là, plus ça devient difficile, douloureux. Mais Il est dit que ce n'est pas elle seulement, verset 23. C'est nous aussi qui avons quoi ? Les prémices de l'Esprit. C'est pas que... C'est les prémices qui nous sont données par l'Esprit. D'accord ? C'est pas qu'on a un petit morceau du Saint-Esprit. Saint-Esprit est en nous. C'est que nous avons les prémices de la part de l'Esprit. Et nous soupirons nous aussi en nous-mêmes en attendant quoi ? L'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà le verset qui m'avait un peu perturbé. C'est en espérance que je suis sauvé. Mais quoi, je ne suis pas sauvé alors ? Si, tu l'es. Mais le salut dont il est question ici, c'est la gloire qui nous attend. Je vais vous dire, le meilleur est à venir. Si on dit, ah, je suis né de nouveau, c'est merveilleux, le Seigneur me guérit de temps en temps, j'ai mes factures qui sont payées, gloire à Dieu, le Seigneur me permet d'avoir de beaux enfants, un beau voyage, un beau... Non mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Aucune. C'est 75% des écrits de Paul sur l'espérance, c'est attendez de voir. Cette espérance fait relever notre tête. Cette espérance nous fait tout supporter. Cette espérance nous fait, j'allais dire espérer, oui, nous fait attendre avec certitude, avec conviction. Cette espérance nous fait louer Dieu. C'est une certitude. Et ce n'est que chez les chrétiens. Ça se trouve dans aucune autre religion. Ah, l'esprit, oui. L'esprit, l'âme qui va, qui passe par le nirvana et qui... Non, d'accord. Non, mais le corps, c'est-à-dire, tu vas ressusciter. Et tu vas ressusciter avec un corps glorifié. Ou bien, le Seigneur revient tant qu'on est toujours en vie et il nous enlève avec lui. Et à ce moment-là, on revêt nos corps glorifiés. L'un ou l'autre. Mais peu importe. L'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, ça, on ne peut pas y échapper. Ensuite, il nous est dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, attention, ne dites pas, ah, je ne suis pas sauvé, mon salut est incertain à cause de ce verset, donc je ne sais pas si je serai sauvé ou pas. Non. Tu es sauvé puisque tu as reçu les prémices de l'Esprit. Ok ? Mais ce salut, c'est la gloire, c'est la doxa dont je parlais tout à l'heure. Or, l'espérance qu'on voit, ce n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore ? Ben non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes d'ores et déjà enfants de Dieu. Ne doute jamais de cette chose-là. Comment tu le sais ? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Oui, mais je ne parle pas en langue. Non, mais tu as reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Romains 5:5. L'amour de Dieu a déjà été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Et ça, c'est la preuve que tu es né de nouveau. Tu comprends ? Tu es guidé par l'Esprit. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Donc tu peux espérer cette gloire qui nous attend. Cet Esprit, ça représente le gage de notre héritage. Vous savez ce que c'est un gage ? Le gage, c'est ce que je laisse à quelqu'un, à qui j'ai emprunté quelque chose, pour lui dire, tu peux avoir la certitude que je vais te le rendre. Ou bien, c'est une fraction de ce que je suis censé donner à quelqu'un, en disant, je te donne déjà ça, et ça, c'est la certitude que le reste arrive. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes guidés par l'Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue, nous avons des directions de Dieu, nous avons l'amour de Dieu, nous avons, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Le consolateur, le défenseur, chaque fois que nous en avons besoin. Ok, c'est une partie seulement de ton héritage. Ne crois pas que tu as déjà vécu ce qu'il y avait à vivre avec Dieu. Ne crois pas que le meilleur, tu l'as déjà vécu. C'est faux et archi-faux. Amen. Ensuite, il nous est dit dans 1 Corinthiens 13, je vais vous le lire dans la version Parole Vivante. L'amour n'aura pas de fin. Rien que ça, tu peux déjà méditer tout ce soir sur ce verset-là. L'amour n'aura pas de fin. Mais l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est Dieu lui-même. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. L'amour. Je pense que Tristan est d'accord avec moi, mais... Les scientifiques vont se pencher sur l'amour tôt ou tard. Je ne parle pas des biologistes, je parle des astrophysiciens. Ils vont se pencher sur l'amour à un moment donné parce qu'ils vont se rendre compte que si Dieu est amour, alors ça permet de passer dans une dimension qui n'a rien à voir avec la nôtre. L'amour est une puissance, si vous préférez, c'est une force. C'est presque une cinquième dimension. Hein ? Longueur, largeur, hauteur, temps et amour. L'amour n'aura pas de fin. Il nous est dit ensuite, les prédications inspirées, ou les prophéties peut-être, ouais, prendront fin. À un moment donné, il n'y a plus besoin de parler de la part de Dieu, puisque Dieu parlera lui-même et qu'on l'entendra dans nos oreilles physique, ressuscité, régénéré, glorifié. D'accord ? Les prières en langue cesseront. Toute notre connaissance, entre guillemets, s'évanouira. Notre science, d'ailleurs, j'aime bien cette version, notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé. Et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait des enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité, de la vérité. Nous voyons comme dans un miroir. Mais il faut se souvenir que le miroir dont Paul parle ici, c'est un miroir antique. Avant l'existence du tin et des miroirs tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est un miroir, c'est du métal poli dans lequel tu te voyais. Imagine, fais l'expérience quand tu rentres chez toi, prends une cuillère. Et regarde-toi, déjà tu vas te voir à l'envers, ça dépend de comment tu la regardes. Mais en plus tu verras que c'est une image grossière, c'est une image déformée, c'est une image qui n'est pas nette. D'accord ? C'est ce miroir-là dont il parle. Les gens n'avaient pas d'autre miroir que ça à l'époque. Quand ils voulaient regarder à quoi il ressemblait, ils prenaient un plat, ils regardaient comme ça. Si le plat était propre, c'était pas trop mal. Si le plat était sale de la veille, c'était problématique. Mais c'était confus, c'était distordu, c'était imparfait. Paul dit, c'est comme cela qu'aujourd'hui, on voit les choses, la réalité, la vérité. Et gloire à Dieu, c'est déjà mieux que rien. Mais, et donc bien des énigmes demeurent. Mais alors, nous verrons directement, face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît. Et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. Toutes les questions que tu as, toute cette lourdeur, tout ce chaos, vous voyez ce que je veux dire, on a du mal à... On aimerait en savoir plus, on aimerait tout comprendre, on aimerait tout savoir, on aimerait que tout soit facile, on aimerait que tout soit... Ça, c'est la gloire qui nous attend. C'est quand on verra face à face. Pas comme à travers un miroir. En somme, nous dit Paul, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais, on le sait, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mais l'espérance demeure. Et elle demeure jusqu'à ce qu'on ait vu son accomplissement. Vous comprenez ? Dans Tite 3:4, il est dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Il nous a sauvés. Donc tu es déjà sauvé. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance que tu as vécu et le renouvellement du Saint-Esprit que tu as vécu, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, ainsi déclaré juste par sa grâce, qui est juste ici, qui a été déclaré juste par la grâce de Dieu, qui est certain d'être juste. Ceux qui ne sont pas sûrs, vous ne levez pas la main. Ok, donc si vous ne levez pas la main, ça veut dire que vous avez encore un doute à ce sujet. D'accord. Déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus, quoi ? Ses héritiers. Conformément à l'espérance de la vie éternelle. Tu comprends que la vie éternelle, d'abord on est conscient du fait que ça n'est pas simplement une quantité de vie. Ça n'est pas le fait de vivre éternellement. Parce que selon l'état dans lequel tu te trouves, tu n'as pas forcément envie de vivre éternellement dans cet état-là. Hein ? Et même si tout va bien, on n'a pas forcément envie de vivre éternellement. La vie éternelle, c'est une qualité de vie que tu peux déjà expérimenter dès à présent, de manière confuse, comme à travers un miroir, partiellement. Forcément, ton corps va mourir à un moment donné. Mais à partir du moment où on va ressusciter, alors cette vraie vie éternelle, ce que la Bible appelle la perfection, va se manifester. Vous comprenez ? Et là, le salut sera complet. C'est pour ça que Paul écrit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est de cela dont il parle. Et donc, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Mais par le Saint-Esprit qui est déjà en nous, on peut déjà bénéficier de certaines choses. Absolument. Absolument. Dans Romains 5:5, et je terminerai avec ça pour aujourd'hui. Dans Romains 5:5, il nous est dit, or, l'espérance, toujours ce mot elpis, l'espérance ne trompe pas. Elle n'est pas trompeuse, elle n'est pas décevante. Ce n'est pas une arnaque, ça n'est pas une fumisterie, ça n'est même pas un souhait que tu aurais, et puis finalement, ah bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Non, non, non. L'espérance ne trompe pas. C'est-à-dire, c'est ce que, je ne vous ai pas lu la suite du verset dans Tite, mais Paul dit juste après, il dit, cette parole, ce que je viens de vous dire concernant le fait que nous sommes héritiers de la vie éternelle, elle est certaine. Et souvenons-nous que Paul, non seulement a découvert dans les Écritures, mais de visu, a vu l'après. Comme Jean d'ailleurs. Il a vu l'après. Et il dit, c'est certain, on ne pourra pas passer à côté. L'espérance ne trompe pas. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce qui me fait dire que, je dis, bon, tout ça c'est bien, c'est joli, c'est encourageant, c'est sympa, c'est... Non, non, on verra plus tard les bienfaits de cette espérance. Pourquoi il est important de se maintenir dans cette espérance ? Qu'est-ce que ça va provoquer en toi ? Mais ce qui nous est dit ici pour terminer dans Romains 5:5, c'est que si tu veux être certain de ce qui t'attend, tu peux l'être grâce à l'amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que plus tu vas méditer l'amour de Dieu pour toi, plus tu vas te nourrir de l'amour qu'il a pour toi, plus tu vas dire « Non, je refuse les pensées de doute, d'incrédulité, d'accusation. » Il nous dit dans Romains 8, 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ a déjà pris sur lui comme un paratonnerre le péché et la condamnation et la sanction et la punition et l'enfer et la foudre. Il a tout pris sur lui. Les maladies, la malédiction, il a tout pris. Donc on n'a pas à craindre d'avoir ces choses-là ou à dire « Bon, bah, si je traverse ça, c'est peut-être parce que je m'éloigne de l'amour de Dieu. » Non. Tu médites sur l'amour de Dieu. Tu te nourris de l'amour de Dieu. Tu te débarrasses de tout ce qui t'éloigne de l'amour de Dieu. Plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir la conviction dans ton cœur de la présence du Saint-Esprit. Plus ça va renforcer ta certitude que tu es appelé à hériter le plein potentiel de la vie éternelle. Plus ta tête va se relever, parce que l'espérance va grandir en toi. Et pas seulement l'espérance de dire « Je t'en supplie, paye ma facture à la fin du mois ». Non, l'espérance de ton propre salut total. C'est-à-dire que même, nous dit Paul, la pire des choses qui puissent arriver sur cette terre, la mort est un gain. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter par le parapet, ça ne veut pas dire qu'il faut accélérer les choses, parce que, il dit dans ce même passage, que entre les deux, lui a décidé, il vaut mieux que je reste ici, j'ai encore du travail à faire ici, j'ai encore des choses à faire ici. Mais si d'aventure je devais partir, ou quand je partirais, de toute façon, ça sera un gain. Parce qu'à ce moment-là, bye bye les limites. Et je vais attendre avec espérance la résurrection de mon corps glorifié. Amen. Donc, le petit travail pratique que je voudrais vous confier, vous relisez Colossiens 1, vous réécoutez le message, vous méditez les versets dont on a parlé, et parce que c'est des choses, comme toute chose d'ailleurs, qu'on ne peut vraiment saisir qu'en les réécoutant et en les méditant. Tu pars le dimanche, tu traverses la porte, tu dis merci, merci, tu as une part de quiche dans les mains, un café, tu vas aux toilettes, et ensuite tu rentres chez toi parce qu'il fait chaud, tu vas à la plage, et le lendemain, tu as oublié le bon moment que tu as passé dimanche matin. C'est pas ça le but. Le but c'est, voilà des choses qui vont relever ta tête. Amen. On médite l'amour de Dieu. On médite l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve de notre futur héritage. Première chose que le Saint-Esprit fait quand il vient en nous, il nous fait naître de nouveau et il manifeste l'amour de Dieu en nous. Il déverse l'amour de Dieu en nous. Nous en sommes certains, nous en sommes convaincus. Ça relâche les fardeaux qu'on peut avoir sur les épaules.